Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Aujourd'hui, on vous parle de musique à travers la pédagogie Montessori et Marie-Jaëlle avec notre invitée Véronique Mureau. Après une carrière en grande entreprise, Véronique a décidé de changer de vie pour se consacrer à l'une de ses passions, la musique. Après s'être formée à la pédagogie Marie-Jaëlle, elle consacre maintenant sa vie professionnelle à l'apprentissage de la musique pour les enfants. Nous avons donc abordé les particularités de ces pédagogies, l'importance du mélange des arts et surtout du développement de la main dès le plus jeune âge. Apprendre la musique doit être un plaisir pour les enfants et c'est ce que Véronique a si bien compris dans sa méthode d'enseignement. On vous laisse découvrir ses propos passionnants. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Nous sommes ravis d'échanger avec vous aujourd'hui, surtout qu'on parle de musique. Alors on adore ça, on est super contentes. Avant de démarrer sur la pédagogie Marie-Jaëlle et notamment les liens avec la pédagogie Montessori, ce qui nous intéresse toujours beaucoup, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de vous. Et de pourquoi vous vous êtes dirigée vers une carrière dans la musique?
Tout d'abord, merci de m'avoir conviée ce matin. Et comment je suis venue à la musique? Alors, j'ai envie de dire à la musique depuis mon enfance, mais du coup, c'est après ma première maternité que j'ai décidé de changer complètement d'horizon. J'étais à l'époque responsable dans une grosse boîte de bijouterie fantasy. Et je gérais la région parisienne. Enfin, je voyage énormément. J'avais installé le marché espagnol parce que je suis de région espagnole et bilingue espagnole. Donc voilà. Et puis donc je voyageais énormément. Et lorsque j'ai eu mon premier enfant, c'était devenu impossible pour moi. Je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ce n'est pas possible. Et voilà. Et donc ensuite j'ai eu un deuxième enfant. Et là je me suis dit ben, je vais me poser. Je vais prendre du congé parental et je vais réfléchir. Donc ça, voilà, ça a mûri dans ma tête. Et en fait, j'ai commencé à me renseigner et voilà, et j'ai décidé de complètement virer à 90 degrés ou à 45 degrés comme vous voulez. Et puis voilà, et puis j'ai fini par faire la formation au sein de l'association Marie-Jaëlle. Voilà. Alors pour des raisons de budget, quand je me suis arrêtée dans mon projet parental ben, je n'ai pas réussi à me faire financer cette formation, qui durait quand même pendant 3 ans. Et donc, il a fallu que je reprenne néanmoins mon activité dans le commerce. Et voilà, et au bout, très rapidement, j'ai pu profiter d'une vague de licenciement, en fait. J'ai levé la main, j'ai dit, je veux bien partir. Et alors seulement, j'ai pu me former pendant 3 ans à l'association Marie-Jaël.
Génial. Et alors, comment vous avez entendu parler de cette formation?
Alors, en fait, j'ai entendu parler de cette formation parce que, comme je vous disais, je fais du piano, enfin, je faisais de la musique depuis mon enfance. J'ai eu la chance, j'habitais en banlieue parisienne et le conservatoire avait ouvert ses portes au rez-de-chaussée de mon immeuble. Donc, ma maman, oui, m'y avait inscrite voilà, en initiation musicale et j'ai eu la grande chance de rencontrer Nairi Malekazarian, que peut-être vous connaissez, je ne sais pas.
Est-ce que vous pouvez nous dire qui c'est?
Alors oui, Nairi est donc était professeure évidemment au conservatoire et à l'époque elle se questionnait déjà beaucoup sur l'enseignement du piano. Elle trouvait qu'il y avait vraiment énormément de choses qui n'allaient pas avec les enfants. Que la musique, souvent les enfants en étaient dégoûtés. Hein, c'était vraiment le solfège, l'apprentissage, etc. C'était vraiment pas des choses. Elle trouvait vraiment qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et donc elle a décidé de chercher un autre moyen de d'enseigner. Et elle a découvert Marie-Jaël. Et donc elle a fait la formation parallèlement. Et lorsque moi je suis arrivée dans ce conservatoire, elle était en pleine formation. Et donc moi je l'ai rencontrée. J'étais une petite et je faisais des cours d'initiation musicale d'abord. Et ensuite, j'ai fait du piano parce que ma maman avait déjà investi dans un piano. Enfin, mes parents avaient investi dans un piano parce que mon frère en avait fait dans son conservatoire. Mais il était tombé sur une prof qui l'a d'ailleurs dégoûté, dont on n'a jamais pu refaire après. Voilà. Et donc, Nairi, eh bien, m'a enseigné ensuite le piano et j'ai été en quelque sorte son cobaye. Donc, j'ai eu la chance d'être jailliste dès le départ. Voilà.
D'accord.
Et voilà. Donc j'ai fait quelques années au conservatoire, je ne sais pas depuis de l'âge. Donc j'ai dû commencer le piano aux alentours de l'âge de 8 ans, 8-9 ans peut-être. Et donc j'ai dû faire au conservatoire, je suis restée avec Nairi jusqu'à à peu près 15-16 ans. Ensuite j'ai eu un arrêt, alors un arrêt pas vraiment, je m'amusais un petit peu comme ça chez moi, mais voilà, l'âge de l'adolescence, j'ai un peu lâché l'histoire, on va dire. Et donc c'est lorsque je me suis arrêtée en congé parental, en étant à la maison. Bon, j'avoue que j'adore être à la maison avec mes enfants, mais j'avais l'impression un petit peu de tourner en rond. Et donc ma maman me dit, mais pourquoi ne te remets-tu pas au piano? Et je me suis dit, c'est une excellente idée. Et je suis retournée au conservatoire de la même ville où j'étais. Et à ma grande surprise, Nairi Malekazarian enseignait encore. Donc, du coup, j'ai repris des cours avec Nairi. Et donc, voilà, je vais lui faire un petit peu part de mon histoire, puisqu'elle m'avait quittée, j'avais 15 ans, et elle me retrouve 15 ans plus tard. Donc, voilà. Et donc, elle me dit, mais tu sais, il existe au sein de l'association Jaël, une formation, évidemment piano si tu souhaites, mais une formation pour l'initiation musicale. Et donc je me suis dit, oh là là, mais voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et donc j'ai commencé à me renseigner, mais comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, pour des raisons de budget, pendant mon projet parental, je n'ai pas pu accéder à cette formation qui était quand même longue et qui avait un certain coût, et donc je n'avais pas pu la faire. Dans mon petit esprit, je me suis dit, oh, bah, tu vas profiter du congé parental pour te former et faire autre chose, mais bon, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, donc voilà, donc j'ai pu la faire que 2 ans plus tard, lorsque j'ai dû reprendre mon poste au sein de cette grosse société dans laquelle je travaillais, et ensuite pouvoir bénéficier de formation parce que j'avais été licenciée, en fait. Voilà, donc actuellement, je donne des cours de piano, plutôt à domicile, et j'interviens dans de nombreuses structures. En fait, j'ai changé de région depuis peu, ça fait 3 ans que j'ai quitté la région parisienne. En région parisienne, je travaillais pour la ville de Garges-Lagonesse, une ville dans laquelle donc j'ai grandi et dans laquelle je me suis formée enfant au piano, et voilà, la boucle avait été bouclée puisque j'ai fini par travailler dans ce conservatoire en tant que professeur d'initiation musicale. en fait. Hein. Voilà. Et donc en fait, actuellement, donc je ici en région PACA, donc là où je me situe, j'ai monté ma propre entreprise. Hein. Je me suis donc déclarée en auto-entreprise. Et donc j'interviens dans une école de musique, hein, une école voilà, qui donne des cours d'initiation. Enfin, j'ai vraiment proposé des cours d'initiation selon la méthode de Jaël Montessori. Et voilà, dans cette école, il y a également des cours de piano, des cours de chant, des cours de guitare. Hein. Voilà, je travaille beaucoup avec la petite enfance, puisque dans la formation Jaël, il y a un module qui s'adresse à la petite enfance, donc les 0-3 ans. Ce module est vraiment très important parce que, et c'était la force de cette formation, c'est parce que évidemment il y avait une formation musicale, il fallait être un minimum musicien au démarrage, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait également une formation d'un point de vue psychologie et développement moteur du petit enfant. Voilà, et le module pour s'adresser aux enfants de moins de 3 ans était un module à part entière, puisqu'on sait très bien qu'évidemment un enfant de moins de 3 ans, c'est un autre monde encore, j'ai envie de dire. Oui. Voilà, ce que l'on propose aux enfants de 0-3 ans est bien différent. C'est ce qui fait la force de cette méthode, d'ailleurs.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les grands principes de la pédagogie Marie-Jaël?
Marie-Jaël, elle fait toute sa vie, donc c'est une grande pianiste hein, du fin 19e, début 20e, concertiste, compositrice, ce qui est assez rare. Hein. En plus, même actuellement, les femmes de cette époque sont très peu mises en lumière. Ça commence un peu des balbutiements, on va dire. Mais voilà, donc toutes ces recherches. Ensuite, elle a rencontré très très tôt dans sa carrière Franz Liszt, avec qui elle était très amie. Et elle avait une admiration pour ce fabuleux musicien et pianiste qui avait de façon innée une façon de toucher le piano assez exceptionnelle. Et elle l'a vu en concert une fois plus tard dans sa vie de femme aux alentours de 35 ans. Je pense que ça correspond à peu près à l'âge auquel elle est devenue veuve. Hein. Elle a perdu son époux, Marie-Jaël, qui était également un grand pianiste à l'époque. Et elle a quitté sa carrière publique, on va dire, pour être exclusivement en recherche de comment Franz Liszt pouvait jouer de cette façon. Donc elle s'est mise à étudier toutes les sciences physiques et mathématiques, l'anatomie. Enfin, elle a vraiment énormément poussé ses recherches. Elle a vraiment décortiqué de façon scientifique le jeu artistique de Franz Liszt. Et donc, c'est ce qui lui a permis de produire, de créer cette méthode. Et donc, et en fait, toutes ses recherches, si vous voulez, elles portaient sur le toucher. Hein, parce que pour elle, c'est ce qui était intéressant, c'était cette façon qu'il avait d'interpréter et de jouer. Si je devais un petit peu résumer, si vous voulez, à l'époque, pour jouer du piano, il fallait être doué, il fallait souvent être un homme, d'ailleurs. voilà. Et en fait, elle montre et elle crée une méthode qui va permettre d'apprendre à toucher son piano et à en sortir quelque chose de joli, même si nous n'étions pas prédestinés à cela, en fait. Voilà, sans vouloir devenir des professionnels. Ça permettait néanmoins d'avoir une très belle interprétation de tout ce que nous souhaitions jouer. Donc voilà, c'était un petit peu son cheval de bataille. Et également, si vous voulez, les méthodes à cette époque-là étaient plutôt dans la mécanique. Hein. On répétait beaucoup, on a tous en tête hein, cette façon d'apprendre les gammes, on descend, on répétait à l'infini des mouvements comme ça de façon très mécanique. Et elle, justement, elle met en lumière le lien entre le mouvement et la pensée, entre le toucher et la pensée, entre le développement de la main et du toucher par la pensée et la conscience du mouvement. Voilà. Donc en gros, pour résumer cette pédagogie, c'est pour la conscience de ce que l'on fait dans voilà, dans le mouvement.
Et c'est en ça qu'elle se rapproche beaucoup de la pédagogie Montessori.
Exactement. En fait, ces deux femmes, c'est assez incroyable. Lorsque vous m'avez convié à cette interview, j'ai réfléchi et je me suis j'ai essayé de me rappeler de certaines phrases. On est toujours très, très touché par certaines phrases lorsqu'on étudie certaines choses. Et en fait, c'est incroyable parce que Marie-Jeanne disait une chose. Je vais vous lire la phrase parce que je ne saurais vous la dire par cœur, mais elle a toujours été près de moi, cette phrase. Il y a une parcelle de pensée, partout où il y a sensation. Apprendre à mieux sentir par sa main, c'est apprendre à mieux penser. Ça, c'était Marie-Jaëlle, on le retrouve dans son recueil qui s'appelle Intelligence. Et Maria Montessori disait, le développement de l'habileté de la main va de pair avec le développement de l'intelligence. Donc il y a vraiment une grosse.
J'ai vraiment ça, Sylvie, elle la connaît par cœur, celle-là.
Et ben oui, j'imagine bien. Je ne vous apprends strictement rien. Donc voilà, ces deux femmes ont vraiment eu des choses très très communes. Et donc c'est la raison pour laquelle elles sont extrêmement liées. Et donc Marie-Charlotte Benoît, elle s'est servie de tout ce qu'elle avait appris, elle, d'un point de vue Jaël, et de tout ce qu'elle a appris, elle, en tant que Montessorienne, parce que elle a eu un bac Montessori, Marie-Charlotte Benoît. Elle a été elle-même formatrice au sein de l'association Montessori France. Donc elle connaissait très très bien cette pédagogie, et donc elle a créé cette formation pour enseigner la musique de façon plus globale, mais aussi pour rendre accessible la méthode Jaël au piano aux jeunes enfants.
Super. Et alors concrètement, comment est-ce que ça se passe un atelier à pédagogie Marie-Jaël et Montessori?
La démarche, c'est de favoriser tout ce qui est manipulation, comme en atelier Montessori. Moi j'aime bien dans mes ateliers, en fait, pour avoir travaillé de nombreuses années dans une école Montessori, puisque j'intervenais dans l'école Montessori de Presles, donc j'y ai travaillé pendant 6 ou 7 ans dans cette école, donc j'ai vraiment baigné dans tous ces ateliers sensoriels que j'ai eu bien le temps de développer, de même tester. J'adorais faire avec les enfants et observer énormément. Donc j'ai eu cette chance-là, et par conséquent mes ateliers, je les ai beaucoup montés autour de cette expérience-là. Donc mon atelier, par exemple, lorsque vous venez dans l'école où je travaille actuellement, je vais prendre cet exemple-là. Donc la durée de l'atelier, c'est une heure. Alors tout le monde me dit oh là là, c'est un petit peu long, une heure, non, pour les enfants. Alors je leur dis écoutez, la séance en elle-même, vraiment de musique, elle va durer que 45 minutes. Mais je veux réellement avoir 45 minutes de qualité. Par conséquent, je propose le premier quart d'heure, qui est souvent d'ailleurs, qui est un premier quart d'heure qui va être pour l'enfant d'abord, parce que bon, ça se déroule, ce sont des ateliers qui se déroulent souvent les mercredis et les samedis. Les enfants arrivent de la maison, c'est un jour souvent où ils sont avec papa et maman, ils n'ont pas forcément envie de venir, non pas qu'ils n'ont pas envie de faire de la musique, mais c'est quand même très chouette d'être avec maman, donc ils n'ont pas trop envie de la quitter. Voilà, donc il y a une espèce de tiraillement comme ça entre l'envie de venir jouer et puis l'envie de rester avec maman à la maison. Donc il y a ce petit temps, voilà, qui permet, voilà, un petit sas qui va leur permettre de rester un petit peu avec maman s'ils le souhaitent, et de leur montrer ces petits ateliers que je mets donc en place en début d'année, qui vont être des ateliers individuels sensoriels autour de la musique. Donc ils vont découvrir les tableaux de valeurs, les notes de notes, mais également les tubes sonores, il y a différents comme ça d'ateliers, un petit livre, enfin voilà, des petits livres. Ils peuvent vraiment vaquer à leur occupation pendant un petit quart d'heure et avoir ce temps là avec maman, et voilà, ensuite le petit quart d'heure se passe, les parents peuvent à ce moment-là s'en aller. Voilà, donc c'est un petit temps d'abord pour eux, c'est un petit temps également pour le parent. Ça permet également de partager un instant avec un petit moment avec son enfant, de voir un petit peu ce qu'il fait pendant ce moment musical. Et puis c'est également un temps pour moi, parce que ça a été une façon de pallier au retard. Je connais très très bien le problème des mercredis et des samedis d'une maman avec trois enfants que j'étais, et donc je sais pertinemment qu'il est parfois compliqué de se trouver à l'heure aux activités, parce que on court d'un côté pour emmener les uns et les autres. Et donc, ça permet d'avoir ce petit quart d'heure de battement où, si on arrive, ma foi, en plein milieu, ça ne va pas déranger de trop la concentration des enfants. Voilà. Et une fois que ce quart d'heure est passé, je sais que, bon, au-delà d'un quart d'heure, il n'y a plus de retard, c'est évident. Et donc, je peux commencer ma séance. Et ça me permet, lorsque je rentre dans cette séance qui va vraiment démarrer par un ancrage, une concentration, et essayer de ne plus en sortir, ne pas être dérangé par quelqu'un qui rentre, quelqu'un qui ressort. Voilà. Donc ça démarre toujours par ce petit quart d'heure. Et ensuite, voilà, on va avoir un tas de petits jeux, de comptines sancrées, voilà, des petites astuces. Je me sers beaucoup de yoga, de danse, de plein de petites choses comme ça qui vont permettre aux enfants de se centrer. Ensuite, on va faire un travail sur la main, puisque la main est un élément extrêmement important, puisqu'ils vont ensuite manipuler, explorer des petits instruments, des clochettes, etc. Donc, on va faire d'abord un travail sur la main pour se concentrer et faire une espèce d'échauffement. Moi, je dis beaucoup aux enfants, vous savez, le musicien, c'est comme un sportif. Le sportif va forcément s'échauffer avant de démarrer son sport pour éviter qu'il ne se blesse. Le musicien fait pareil. Il va vérifier sa posture, il va s'échauffer, il va travailler sa main, parce que on ne touche pas un instrument comme on touche un crayon, un ballon, une fourchette, parce que si on sort de table, ou que sais-je. Et donc voilà, c'est vraiment important de s'échauffer. Et on pourrait, vu de l'extérieur, se dire, oh là là, mais donc, tu passes énormément de temps avant de vraiment rentrer dans la musique. Alors, on pourrait le penser comme ça, mais en fait, il s'avère que lorsqu'on ne fait pas ça, on se rend compte que le moment pour la musique n'est pas vraiment de qualité. Alors que lorsqu'on passe par tout cela, effectivement, on risque de n'avoir plus que peut-être 20 minutes, peut-être une demi-heure à peine, mais qui est vraiment de grande qualité. Et parce que l'enfant est très concentré, parce que l'enfant est vraiment préparé à tout ce qui va être proposé. Donc, pour moi, c'est très important. Et puis, on va jouer. On va beaucoup jouer, parce que la musique, elle se joue. Donc, voilà.
Et est-ce que vous pouvez nous parler des instruments de musique Montessori, en quoi ils consistent?
D'accord. Alors, moi, ce que j'utilise dans le cadre de la pédagogie Montessori, j'utilise les clochettes. J'ai la chance d'avoir les clochettes Montessori. C'est vraiment des clochettes pour moi qui sont fabuleuses, parce que elles vont effectivement faire travailler l'oreille. Donc d'ailleurs, Maria Montessori est beaucoup dans les écoles, je l'ai observé, elles sont utilisées comme on utilise un matériel, on va dire sensoriel, que l'on peut trouver dans les écoles, un peu moins d'un point de vue musical, alors que c'est un réel instrument de musique aussi. Et par conséquent, le toucher avec lequel on va produire le son est également intéressant et pas si simple, même pour pas dire difficile à obtenir. Et c'est en ça que la pédagogie Jaël va énormément servir dans le jeu musical pour ces clochettes. Donc moi, j'utilise également beaucoup la clochette Montessori, mais pas que. Parce que c'est assez particulier, c'est un son qui est très cristallin, ça pourrait être aussi un petit peu rébarbatif si nous n'utilisions que cet instrument. Donc si vous voulez, moi il fait partie de mes cours, beaucoup pour l'apprentissage du code musical, mais pas que, parce que c'est un instrument qui est extrêmement intéressant, il résonne très très longtemps. Je n'ai rien trouvé qui résonne aussi longtemps une clochette Montessori, même un excellent triangle, même des petites crotales de très bonne qualité, elles vont résonner, mais pas autant que la clochette Montessori. Donc c'est fabuleux, elle va vraiment aider l'enfant à comprendre qu'un son, il y a un début et une fin. Et cette clochette, elle c'est un exemple parfait. C'est vraiment très 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 intéressant.
Et vous travaillez aussi beaucoup avec les comptines, il me semble. Est-ce que vous pourriez nous en parler et surtout nous dire rapidement quels en sont les bienfaits?
Alors, les comptines, les bienfaits de la comptine, on va dire du chant, j'ai envie de dire, la musique en, même en général, c'est-à-dire que bon, la musique, c'est un monde de découverte par excellence, donc en fait, la comptine, alors selon le choix des comptines, mais elle va vraiment, c'est vraiment l'occasion de faire vibrer, donc pour l'enfant, de chanter. Moi, on passe beaucoup, tous mes collègues qui ont fait cette formation, on passe énormément par le chant, mais voilà, c'est l'occasion de s'entendre, c'est l'occasion d'avoir cette écoute intérieure, de se procurer des sensations vibratoires. Voilà, c'est aussi très intéressant au niveau émotionnel, par les comptines, toujours selon les comptines que l'on va évidemment choisir. Là, on peut mettre en avant. On peut mettre par exemple des jeux, ça peut régler des conflits, ça peut régler voilà, ça permet d'exprimer des sentiments, voilà, c'est des fois très très subtil, on peut exprimer des choses que on n'arrive pas à exprimer par des mots simples. C'est intéressant d'un point de vue corporel, l'enfant va découvrir beaucoup son schéma corporel grâce à des comptines, en l'occurrence, donc c'est vraiment et puis évidemment le j'ai envie de dire la cerise sur le gâteau, c'est le développement du langage, vraiment le par le biais de la comptine, on va vraiment approfondir l'apprentissage du langage, l'apprentissage du vocabulaire. C'est vraiment une source d'inspiration infinie, en fait. C'est vraiment tout le monde devrait chanter. Alors il y a beaucoup de personnes qui sont arrêtées par le chant. Quand je dis beaucoup dans mes ateliers parents-enfants avec les enfants de moins de 3 ans, beaucoup de parents sont très très timides de chanter. Alors je les mets tout de suite à l'aise. Je leur dis que vraiment on n'est pas à un cours de chant. Ça m'est complètement égal. On peut même chanter faux. C'est pas du tout ça qui est important. Ce qui est important, c'est leur voix. Ça va être les mots. Ça va être l'intention qu'ils y mettent. La justesse, c'est pas une chose très importante dans un premier temps. Voilà. Donc vraiment la comptine, moi je passe mon temps à chanter. D'ailleurs, vous savez, la petite anecdote, lorsque j'étais à la maison, donc mes enfants, comme vous pouvez l'imaginer, ont baigné là-dedans, et je sais que à chaque fois qu'un mot était dit, j'avais toujours la comptine qui allait avec. Je répondais parfois en chantant, et mes enfants me disaient: oh mais maman, mais arrête de chanter. J'avais toujours, dès qu'il y avait un mot, j'avais la comptine qui allait avec. Donc voilà, vraiment la comptine pour moi devrait être la première chose. Enfin, c'est souvent la première chose.
Alors moi j'ai vraiment beaucoup aimé la méthode Marie-Jaël. J'avais choisi ça pour mes enfants quand ils étaient tout petits, parce que justement il y a ce côté du toucher que je trouvais très important, parce qu'on leur apprenait à toucher l'instrument, même au niveau du piano. Ils touchent pas l'instrument du tout de la même façon que ceux qui étudient. Moi j'avais une grande sœur qui avait étudié au conservatoire, et donc c'était pas du tout la même chose. Et puis moi je voulais que mes enfants apprennent la musique très jeune, donc mon fils aîné, il a commencé à 3 ans. Est-ce que vous pouvez expliquer aussi pourquoi il est très important, et dans nos écoles, on pratique la méthode Marie-Jaël pour les tout petits, et c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'allais observer les cours juste par plaisir de les voir dans cette méthode, parce qu'on met en avant le corps de l'enfant, le corps entier pour les rythmes. Je me souviens quand il saute dans la piscine et l'enseignant ou un enfant tape sur le petit tambourin, il tape des pieds, il tape des mains. Je trouve ça extraordinaire. Il y a tellement d'activités pour les très très jeunes, et ils prennent un plaisir extraordinaire. Donc est-ce que vous pouvez aussi expliquer rapidement pourquoi c'est important de commencer très très jeune d'étudier la musique, mais de cette façon-là, hein, parce que moi j'ai été dégoûtée du piano aussi par des professeurs qui faisaient autrement, et j'aimerais bien que vous nous expliquiez pourquoi c'est très important de commencer très jeune avec cette méthode.
Alors j'aurais presque envie de vous dire que pourquoi commencer très jeune, si on sent, enfin, une référence qui me vient à l'esprit, qui est évidemment montessorienne, c'est l'esprit absorbant. C'est vraiment à cet âge-là, les enfants absorbent tout. On le sait. Bon, ça, c'est sûr, ça ne sera pas un scoop pour vous, mais vraiment, quoi que vous leur montriez, ils sont dans l'observation, mais dans une observation que l'on n'a plus ensuite. C'est vraiment quelque chose que l'on perd, et cette méthode permet de se servir de cet état, je vais le nommer comme ça, de l'enfant à cet âge-là, pour lui montrer des choses incroyables. Alors il est vrai que pendant les ateliers d'initiation dont je vous parlais tout à l'heure de la pratique avec les clochettes Montessori, mais on utilise énormément de petits instruments. Bon, il peut y avoir le piano, parfois on n'a pas de piano. Moi, il y a eu des lieux, moi, au conservatoire j'avais un piano, mais je ne faisais pas toujours le piano, parce que c'est quand même parfois compliqué de d'y intégrer le piano lorsque vous avez une dizaine d'enfants, une douzaine d'enfants, mais disons qu'en tout cas on va pouvoir manipuler, et en tout cas jouer à être musicien avec un tas d'autres instruments de percussion. Donc moi, pendant mes cours, effectivement, les enfants vont jouer avec une quantité de d'instruments de percussion. Voilà, ça va des claves, les crotales, les triangles, les djembés, enfin j'en passe, et des meilleurs. Mais voilà, donc les enfants vont apprendre à utiliser ces instruments. Et ils vont vraiment développer leur être musicien. En fait, c'est ça, cette méthode. Lorsqu'on est enfant, c'est aller à la découverte de son être musicien. Et voilà, c'est ce qu'on essaie de faire pendant toutes nos séances. Donc les enfants vont jouer, ils vont vraiment jouer. Alors nous, on va leur donner, si vous voulez, les quelques petites règles du musicien, parce qu'en fait l'initiation musicale c'est ça aussi. Dans l'esprit de nombreux parents, faire l'initiation musicale c'est aller essayer comme ça vite fait. Je dis vite fait parce que c'est un petit peu dans cet esprit là que c'est fait, hein. Vite fait, oh bah je touche à une guitare, je touche à un piano, voilà, pour eux c'est voilà, ou je touche des maracas, voilà, c'est s'amuser, c'est juste jouer avec ça. Alors ça peut être un premier réveil, effectivement, et lorsque on souhaite vraiment faire de l'initiation musicale et découvrir son être musicien, ça va bien au-delà de ça. C'est connaître toutes ces règles de la musique, mais tout en jouant, pas avec un côté évidemment rébarbatif. Donc effectivement on va beaucoup marcher, mais on va explorer ces instruments avec des règles, et donc la pédagogie Montessori va intervenir. Cette ambiance, hein, dont parle Montessori, qui est extrêmement importante. Donc tous les ateliers en tout cas d'initiation musicale, il y a une ambiance qui est posée avec un cadre bien précis, parce que également dans la tête des gens, on dit beaucoup, ça vous avez déjà dû entendre ça maintes et maintes fois, oh oui mais Montessori, c'est cette pédagogie où les enfants font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Voilà, donc bon, voilà, nous on sait parfaitement que bien au contraire, la pédagogie Montessori, c'est un cadre qui est extrêmement établi, et c'est une grande liberté dans ce cadre, et c'est ce qui fait que l'enfant va complètement évoluer dans la joie, la bonne humeur et le bonheur, même j'ai envie de dire, parce qu'on le voit bien avec leur sourire, pardon, tout au long des séances. Donc voilà pourquoi commencer la musique très très tôt pour toutes ces choses-là, parce que l'enfant vous observe et quoi que nous fassions, il va essayer de reproduire ce que nous faisons. Donc à nous de leur montrer de belles choses. Bien.
Super. On arrive à la fin de cet entretien, donc j'aimerais quand même bien vous poser une dernière question. On sait que vous appréciez particulièrement croiser les arts, et je trouve aussi que c'est une approche très intéressante. Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement en quoi ça consiste et pourquoi c'est essentiel pour le développement de l'enfant ?
Oui, alors le croisement des arts est venu à mon esprit justement lorsque je travaillais au conservatoire de l'art de Venise. Je ne peux pas le donner, où les enfants, lorsque je suis arrivée, donc le professeur était parti, donc j'ai pu intégrer le conservatoire, parce que je suis rentrée par le biais de la petite enfance à la Réunion. Donc j'avais d'abord été recrutée pour intervenir dans tous les lieux de la petite enfance, les crèches, le relais des centres maternels, à la Réunion. Et donc c'est lorsque le professeur d'initiation musicale du conservatoire est parti pour je ne sais plus quelle raison, j'ai donc été amenée à intervenir au sein du conservatoire, et je me suis rendu compte que la possibilité pour les parents dans ce conservatoire était d'inscrire les enfants pour 2 heures d'affilée, parce qu'ils faisaient initiation musique et art plastique. Et le professeur précédent, en fait, ne faisait rien de particulier. C'est juste, il faisait son heure d'initiation musicale. Les enfants, il prenait le groupe d'enfants qu'il emmenait en bas à l'école d'art, d'art plastique, et il permutait avec un deuxième groupe. Et les enfants qui avaient fait musique faisaient art plastique, puis les enfants qui avaient fait art plastique faisaient musique avec le deuxième professeur. Lorsque je suis arrivée, je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas aller rencontrer les professeurs d'art plastique pour voir un petit peu comment ils travaillaient. Et là, sans grand étonnement, je me suis rendu compte des grandes similitudes qui existaient, en art plastique. Avec la musique, voilà, on sait très bien que Montessori, comme Jaël, a beaucoup utilisé la couleur, hein, pour faire ressentir et mettre des sensations sur un toucher, notamment pour Jaël et en Montessori, pour travailler sur les intensités, pour travailler ne serait-ce que l'apprentissage des couleurs, etc. Et donc pour moi, c'était évident qu'il fallait que je cherche dans ce sens, et donc avec un prof d'art plastique qui est Carole Pontieux, qui travaille vraiment aussi dans ce sens de l'art visuel. Nous avons énormément travaillé ensemble, pour chercher en fait tous les points communs qu'il y a, tant par la pratique que le vocabulaire, que les sensations. Les intensités, la trace du son, la trace du mouvement, du geste, mais aussi les correspondances avec le vocabulaire. On avait vraiment du vocabulaire qui était très commun. C'était on a fait un lien entre ces disciplines, et vraiment ce lien, moi je vraiment on sent bien qu'il donne du sens, en fait, voilà. Il donne du sens à ce que font les enfants. Et travailler, par exemple, en musique, travailler sur les intensités en faisant soi-même une carte d'intensité, donc en travaillant avec un crayon de couleur, se rendre compte qu'avec un même crayon de couleur, je pouvais obtenir un vert foncé ou un vert clair. Quel a été mon geste pour obtenir ça? En musique, c'est exactement pareil. L'intensité du son s'obtient quasiment de la même façon, en fait. Voilà. Donc, ça a été toutes ces choses-là qui ont fait que on a beaucoup croisé. Ensuite, j'ai beaucoup été inspirée par Carole Pontieu pour ensuite créer des choses qui devenaient artistiquement extrêmement chouettes. Et on a fait des fresques, par exemple des fresques communes avec des enfants, en travaillant sur la durée, donc la trace de la durée, sur la hauteur, sur les intensités, les enfants ont produit des choses assez incroyables artistiquement parlant, tant musicales que visuellement. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment, ce sont des choses qui me sont restées, et j'essaie de continuer de faire ça dans les ateliers. Je ne peux pas le faire parce que par manque de temps, et puis dans le sud de la France, je n'ai pas réussi encore à créer ces ateliers tels que je les crée, tels qu'on les proposait en tout cas au conservatoire, mais je les propose parfois en stage. Lorsque je propose des stages ici, je lis ces deux activités là mais dans mes cours il y a également beaucoup de danse, voilà, et puis beaucoup de théâtre, enfin bon, tout ça est tellement lié, c'est une évidence, en fait.
Super. Eh bien, merci beaucoup, Véronique. C'est super et c'était passionnant. Tout ce que vous faites est extrêmement inspirant.
Merci.
Donc, merci pour tout ce que vous faites pour les enfants.
Je dis également à Sylvie que ce que vous faites m'inspire énormément, et je continue de me nourrir régulièrement pour pouvoir continuer de travailler dans ce sens.
C'est adorable.
Merci. Merci beaucoup.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclèves.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.